Alors avant de commencer un sujet, j'aime bien lire un ou deux versets qui donnent le ton et qui résument un peu le sujet. D'abord dans Ésaïe 24. Dans Ésaïe, on trouve tout, absolument tout. Toutes les vérités, tous les encouragements. Lisez-le matin, soir, midi. Ésaïe 24, verset 19. La terre est entièrement brisée, la terre se dissout, la terre est violemment remuée, la terre chancelle, elle chancelle comme un homme ivre, elle est ébranlée de ça et de là comme une cabane pour la nuit, sa transgression pèse sur elle, elle tombera et ne se relèvera pas. Alors voilà un verset, vous allez dire, il est catastrophiste. Mais un autre, toujours dans Ésaïe, bien sûr, Ésaïe 54, verset 10. Alors voilà le côté positif pour nous. Car les montagnes se retireraient et les collines seraient ébranlées, que ma bonté ne se retirerait pas d'avec toi et que mon alliance de paix ne serait pas ébranlée, dit l'Éternel qui a compassion de toi. Je ne vais pas commenter ces versets, on y reviendra. C'est seulement pour camper un peu le sujet. Alors, dans une grosse demi-heure, on va parler des ébranlements. D'abord, côté physique et ensuite côté moral. Mais comme je n'ai pas une réserve de salive inépuisable, je vais vous faire parler d'abord. Alors, les moins de 25 ans, les plus de 25 ans, d'abord les moins de 25 ans. Dites-moi quels sont les tremblements de terre qu'on trouve dans la Bible. Allez, criez fort parce que vous n'avez pas de micro. Ancien Testament, Nouveau Testament, pêle-mêle, ça sera plus facile. Je vais compter, parce qu'après, ce sera les plus de 25 ans. 1, 2, à 10, on arrête. 3, 4.
Au moment de la mort de Jésus.
Voilà. Résurrection du Seigneur. La mort, pardon, j'en ai déjà dit, on a déjà dit deux. Donc le tremblement de terre à la mort du Seigneur, et puis un autre à sa résurrection. Oui? Allez, encore. Dans l'Apocalypse, voilà, il y en a au moins 5. Enfin, je n'ai pas pris ma concordance pour les compter tous, mais j'en ai trouvé au moins 5. Et ceux-là, ils sont vraiment gigantesques et effrayants, oui. Et puis, il y en a d'autres. Bon, j'ai parlé des tremblements de terre. Mais enfin, il y a des événements en physique aussi qui sont pas appelés des tremblements de terre, mais qui sont des fortes commotions, des gros ébranlements. À Jéricho, oui. Oui, ça a vacillé, ça a bougé, oui, c'est sûr. Ouais. Puis ça devait être assez impressionnant. Lorsque Dieu a donné la loi, Sinaï, voilà. Le déluge, ben oui, je trouve que le déluge, c'est pas un tremblement de terre, mais ça a été un déplacement et une modification. Vous qui êtes de la région, là, je pense, quand il a plu, Maison-la-Romaine, 1992, merci. Je ne sais pas ceux qui étaient là, mais il a plu pendant 12 heures, je ne sais plus combien de temps. C'était à Vers, à Sceaux. Et ce que j'ai remarqué, moi, après, c'est que les montagnes se sont écroulées. Parce que la roche qu'on a dans nos pays de la Drôme, là, c'est de la marne, ça s'effrite, ça vaut rien, et ça se détrempe quand il pleut beaucoup, et ça dégringole. Alors imaginez le déluge qui a duré combien de temps? Combien de temps? La terre était sous l'eau. C'est plus clair. Un an. On oublie ça, on dit le déluge c'est 40 jours, mais non. La terre était sous l'eau pendant un an. Vous vous rendez compte un peu, les transformations géologiques, c'est pire qu'un tremblement de terre, ça. On n'arrive pas à savoir exactement les conséquences. Le déluge, oui. Et puis une autre commotion qui a fait mal. Corée. Ah oui, il y a eu un tremblement de terre, oui. Très bien. Dans le livre des Nombres, qui a englouti les fils de Corée. Oui. Sodome et Gomorre. Alors là, bon, il n'est pas parlé d'un tremblement de terre. Mais on en voit encore les résultats quand ceux qui sont allés là-bas, vous voyez cette faille, le rift africain qui se continue jusqu'au Jourdain, une énorme faille qui fait des milliers de kilomètres, et puis c'est là qu'il y a eu sans doute, bon, est-ce que c'est un phénomène volcanique, j'en sais rien, ce feu du ciel qui détruit deux villes, il faut voir un peu ce qui s'est passé, C'est l'équivalent d'Hiroshima et Nagasaki. Donc, Sodome et Gomorre. On a parlé de la mort du Seigneur, l'Apocalypse, dans les Actes. Hein? Alors, il y en a au moins deux. Alors, Paul et Silas, Philippe, à Philippe, le tremblement de terre, hein, qui délivre les prisonniers. Oui, j'entends une dame là. Acte combien? 4. Dans acte 2, je pense pas. Si, il y en a eu un aussi. Je crois pas, non. Peut-être, mais enfin, je pensais à acte 4 aussi, où le lieu où les disciples étaient en train de prier a été ébranlé. Un fort tremblement de terre. Bon, maintenant, alors la question qui vaut 1 million. Où se trouve dans la Bible une description détaillée d'un tremblement de terre? Je dis bien détaillée. Allez, 1, 2, 3. Ce n'est pas un livre bien connu. On y trouve une description ahurissante. On va le lire un peu. Alors, Zacharie 14, oui, oui, on a oublié celui-là, oui. Tremblement de terre à l'avenue du Seigneur. Ah oui, à Sinaï, en Horeb, quand il retourne, oui, c'est vrai. Mais alors vraiment une description détaillée que ceux qui ont vécu les tremblements de terre s'y retrouvent. Le prophète Amos. Voilà, le prophète Amos. Alors on va lire quelques versets du prophète Amos. Parce que c'est d'abord comme ça, tout le monde dans cette salle l'aura lu au moins une fois dans sa vie. Et puis, c'est vrai qu'on le lit peu, les petits prophètes. Mais c'est fascinant ce qu'il y a là-dedans. Amos. Alors, on ne va pas lire tout Amos, c'est quand même un peu long, mais je vous engage à le lire. Hein. Puis s'il y a des versets que vous ne comprenez pas, tant pis, vous les comprendrez demain. Donc, Amos, chapitre 1, verset 1er, les paroles d'Amos qui étaient d'entre les bergers de Tekoa, qu'il a vu touchant Israël au jour d'Ozias, roi de Juda, et au jour de Jéroboam, fils de Joas, roi d'Israël, 2 ans avant le tremblement de terre. Voilà que c'est un prophète qui décrit, aujourd'hui dans les journaux, à la télévision, vous voyez des comptes rendus détaillés d'un tremblement de terre après. Là, on a une description d'un tremblement de terre 2 ans avant. Il faut le faire, hein, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Et il dit, l'Éternel rugit de Sion, bon, on ne va pas tout lire. Chapitre 1, c'est le péché d'Israël, je crois. Ensuite, péché des voisins, Moab et tout ça. Ensuite, Judas, chapitre 2, verset 4. Alors, le prophète explique la situation catastrophique au niveau moral d'Israël, de Judas et des peuples alentours. L'injustice, la fraude, l'oppression, bon, tout un tas de graves fautes qui sont tolérées dans ce pays, au vu et à la face de Dieu, pour ainsi dire. Hein. Alors, chapitre 3, verset 15. Je frapperai la maison d'hiver avec la maison d'été, et les maisons d'ivoire périront, et beaucoup de maisons cesseront d'exister. C'est le tremblement de terre, c'est la ruine des plus beaux palais de Samarie et de Jérusalem. Ensuite, chapitre 4, verset 11. J'ai fait des renversements ou bouleversements ou tremblements de terre parmi vous, comme la subversion que Dieu a faite de Sodome et de Gomorre. Au chapitre 6, verset 11. Car voici l'Éternel a commandé et on frappera la grande maison de brèche et la petite maison de fente. J'ai lu cela un jour à Valence, puis ma fille a sorti, me dit, Dion, t'as remarqué? Les grandes maisons sont frappées avec des grandes brèches et les petites maisons avec des petites fentes. Dieu est juste dans son jugement. Chapitre 8, verset 8. Pour cela, le pays ne tremblera-t-il pas et chacun de ses habitants ne mènera-t-il pas deuil? Il montera qui? Le pays, la terre, montera tout entier comme le Nil et enflera ses flots et s'abaissera comme le fleuve d'Égypte. Vous voyez le mouvement? Le sol qui se soulève et qui s'abaisse, comme un fleuve, une vague. C'est une description, mais un géologue ne ferait pas mieux. Chapitre 9, verset 1. Frappe le linteau afin que les seuils soient ébranlés et brise leur la tête à tous. Chapitre 9, verset 5. Le Seigneur des armées, l'Éternel des armées, c'est lui qui touche le pays, il fond. Et tous ceux qui y habitent mèneront deuil. Il montera tout entier comme le Nil, il s'abaissera comme le fleuve d'Égypte. Ce même phénomène qui accompagne un tremblement de terre. Alors, il il y a 5 mois environ a eu lieu, la terre a tremblé à Aquila. Marc-Étienne Barre de Montméran est allé quelques semaines plus tard sur place. Et il est venu nous faire un petit rapport à Valence. Et alors, ce qui m'a frappé, c'est qu'il en a parlé à des gens de l'Aquila qui lui ont raconté que la route, quand une voiture était sur la route, eh bien, elle était obligée de chavirer parce que la route soulevait et puis redescendait. Exactement ce qu'on a lu, cette comparaison avec le Nil. Hein. Et moi, j'ai vu des photos d'autrefois de Tokyo ou je ne sais plus, au Japon, on voit des ponts d'autoroute mais tordus et renversés. Vous voyez, c'est impressionnant. On se sent, et ils ont dit, les gens d'Aquila, on se sent tellement petit, tellement misérable. Quand la terre tremble, le sol disparaît, tout s'en va, tout s'en va. On a l'impression que tout ce sur quoi on compte disparaît d'un coup. C'est effrayant, c'est catastrophique. Eh bien, Amos avait prédit cela 2 ans avant, comme jugement pour Israël, du temps d'Ozias. Est-ce que ce tremblement de terre a eu lieu? Eh bien, Zacharie, comme on a cité tout à l'heure, Zacharie 14, la réponse. Zacharie 14, verset 5. Et vous fuirez dans la vallée de mes montagnes, car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Hatsal. Et vous fuirez comme vous avez fui devant le tremblement de terre au jour d'Ozias, roi de Juda. Alors, Zacharie a prophétisé environ, combien, 200, 300 ans après l'événement? À peine, 200, un peu plus de 200 ans. Après la captivité, hein, quand du temps de Zorobabel et Ezra s'est né. Donc, cette tremblement de terre annoncée par Amos s'est bien réalisée. Du témoignage de ceux qui ont assisté à Aquila, ce tremblement de terre, c'était terrible. Finalement, il n'y a pas eu énormément de maisons qui sont tombées, mais quelques-unes, soit totalement, soit en partie, mais tout était ébranlé. Et alors la police a fait évacuer tout le monde, et tout le monde s'est enfui d'ailleurs, à toute vitesse. Et ça a bougé, et ça continue à bouger, paraît-il, en ce moment. Il y a des répliques qui n'en peuvent plus finir, de sorte que les gens sont terrorisés, et ils ne veulent plus rentrer chez eux. Ils ont laissé tout chez eux, les lits, les sommiers, tout, leur linge, tout, parce qu'ils n'osent plus rentrer de peur que tout leur tombe sur la tête. Et c'est cette impression qu'il faut retenir, je pense. Cet ébranlement permis par Dieu. Alors, on ne va pas rester toute la réunion sur ce sujet quand même. Est-ce que ces tremblements de terre que nous trouvons dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau, ont un sens dans les voies de Dieu? Ou est-ce que c'est cette fatalité dont les hommes parlent, ce hasard, si on avait pu prévoir, mais on ne peut pas prévoir parce que ce n'est pas entre nos mains? Mais est-ce que Dieu, lui, donne un sens à ces choses? Tout à l'heure, on a parlé du tremblement de terre à Philippe. Pourquoi Dieu a permis ce tremblement de terre? Jean, ton idée? Ou d'autres?
Pour sauver le
geôlier. Voilà, des conversions. La libération des prisonniers, mais surtout des conversions. Il a fallu ça. Il a fallu ça pour que cet homme endurci soit ébranlé dans le fond de son cœur, lui qui était comme une pierre, ce geôlier. Il a fallu ça. Bon, c'est un exemple. D'autres exemples, donc, Amos, c'est le jugement, point final. Sodome et Gomorre, c'est le jugement. Est-ce qu'il y a eu quelque chose après? Non, il ne semble pas. Dans d'autres cas, il y a eu un jugement et ensuite des gens qui ont été touchés et qui sont revenus à Dieu. Alors, je pense que nous allons voir un peu ces choses-là. Dans Amos, de nouveau, Amos, s'il prédit cela 2 ans avant l'événement, c'est que c'est la grâce de Dieu. Il espère que des gens vont se repentir et changer de façon de vivre. Et c'est ça la repentance. Hein. Eh bien, à la fin d'Amos, il y a quelque chose de... Amos 9.9. J'aime bien les versets comme ça. Amos 9.9. Car voici, je commande et je secourrai la maison d'Israël. Encore cette image du tremblement de terre. Je secourrai comme une couverture par la fenêtre. Je secourrai la maison d'Israël parmi toutes les nations comme on secoue dans un crible, mais pas un grain ne tombera à terre. C'est par l'épée que mourront tous les pécheurs de mon peuple qui disent le mal ne nous atteindra pas et ne viendra pas jusqu'à nous. Alors ce crible, alors là l'image, la prophétie va au-delà de l'événement qui s'est passé 2 ans après, ça va bien plus loin. Parce que Israël secoué comme une couverture, ça vous fait penser à quoi? Un événement qui n'est pas terminé. La diaspora, la dispersion des Israélites à travers le monde, la Shoah, tout ça, c'est cela. Hein? Israël secoué parmi les nations. Voilà ce que Dieu a fait en l'an 70, spécialement, hein, de notre ère, lorsque Titus est entré à Jérusalem et que tous les Juifs ont été soit exterminés, soit emmenés prisonniers, captifs et dispersés parmi toutes les nations. Mais, qu'est-ce qu'Amos nous dit ? Pas un grain ne tombera à terre. Parce que le crible, vous savez ce que c'est tous un crible, hein ? Le grain reste dans le crible. Alors que la balle s'envole. Alors j'ai vu un film présenté par Urs Ernst au début juillet, où il nous montre comment on crible le mil, je crois, au Cameroun. Alors là-bas, ils n'ont pas de crible, ils ne connaissent pas. Ils prennent des pelles, prennent la pelle, ils soulèvent le blé ou le mil en l'air, le vent chasse le son, hein, la balle, et le grain tombe par terre, et ensuite ils recueillent le grain propre. Donc c'est l'inverse du crible. Donc ce verset ne pourrait pas s'appliquer à nos amis africains. Mais enfin, vous comprenez bien ce que Dieu veut dire. C'est que même à travers la Shoah, même à travers la dispersion, la diaspora, cette épouvante que les Juifs ont connue et connaissent encore, parce que ça dure là-bas, hein. Palestine, Israël, la guerre est là tous les jours. Et on en parle à demi-mot dans notre pays. Mais, eh bien, pas un grain ne tombera à terre. C'est-à-dire que Dieu sait ce qu'il fait. Dieu a compté. Dieu connaît les siens. Et il ne laissera pas périr les siens. Qui est-ce qui périt ? Ce sont ceux qui disent « Le mal ne nous atteindra pas ». Donc Dieu est juste. Cette idée de la justice de Dieu même au travers du jugement. C'est important cela. Vous n'avez pas une idée quelquefois, vous n'avez pas quelquefois des pensées qui vous montent à la tête et qui disent, en disant « Mais Dieu est injuste. Il ne fait pas ce qu'il devrait faire. Regardez ce qui se passe dans notre pays. Regardez ce qui se passe dans le monde et les enfants qui meurent et les famines et les guerres et les persécutions de chrétiens et ces chrétiens à qui qu'on est bouillante ou qu'on... Enfin bon, ouais, je passe. Dieu est injuste ? Eh bien non, Dieu n'est pas injuste. Dieu voit les siens dans l'épreuve et il ne permet pas qu'aucun cheveu de votre tête tombe, disait le Seigneur Jésus. Et c'est vrai aussi pour nous à travers ce jugement. Je reviens un petit peu en arrière parce que, pour rester dans l'actualité, parlons de la justice. L'ébranlement de la justice. Je ne sais pas si vous suivez l'actualité, ce n'est pas facile à suivre parce qu'elle avance masquée l'histoire en ce moment. On supprime les procureurs de la République. On supprime la brigade financière, c'est-à-dire ceux qui sont chargés d'enquêter sur les scandales financiers. Supprimés, plus personne. Plus de juges. Vous voyez où ça va ? La justice disparaît. La justice disparaît. Habacuc, c'est un peu plus loin dans nos Bibles. Chapitre 1er, verset 4. C'est pourquoi la loi reste impuissante. Entendez ? La loi reste impuissante. Bon, ça s'adaptait à Israël, la loi de Dieu. Mais pour nous aujourd'hui, c'est vrai aussi. La loi n'a plus de force parce qu'on n'a pas prévu les sanctions derrière. À quoi ça sert de faire une loi s'il n'y a pas de sanctions derrière ? Ils ne craignent rien. Et puis de toute façon, il n'y a pas de juge derrière. La loi reste impuissante et le juste jugement ne vient jamais au jour. La suppression des procureurs de la République, ça veut dire que ce sera remplacé par des avocats. Avocats de la victime, avocats du bandit. Donc avocats payés par un client. Ce n'est plus l'avocat payé par l'État, impartial, c'est l'avocat, la justice à deux vitesses, c'est la justice partiale, payée par le client. Ça change tout. Le juste jugement ne vient jamais au jour, car le méchant cerne le juste, c'est-à-dire la siège. C'est pourquoi le jugement sort perverti. Ébranlement de la justice. J'arrête, parce que sinon j'irai trop loin. on dit que je fais de la politique.